Bonjour et bienvenue à bord de l'Atelier des médias. L'information locale envoie là un terme flou, bousculé par le numérique et que je vais essayer de définir en partant d'une expérience personnelle. Nous étions en 2014, l'hiver approchait à grands pas et je cherchais une solution de garde pour ma fille aînée. Et là, je me suis aperçu qu'il était très compliqué de trouver des données précises dans mon arrondissement sur la garde des enfants. Combien de places disponibles en crèche, combien d'assistantes maternelles à proximité et combien de haltes garderies pour moi ? Quand j'ai finalement réussi à me procurer toutes ces données, je me suis quand même dit que ces informations manquaient cruellement à l'appel autour de moi. Je me suis donc amusé, j'ai tout compilé dans une feuille de calcul, j'ai tout classé, rangé, harmonisé, et en un tour de passe-passe, j'ai pu me fabriquer une carte interactive permettant d'identifier toutes les solutions de garde à proximité. Et qu'est-ce que j'y ai vu ? Eh bien que je n'avais pas une seule place pour ma fille autour de chez moi. Et là forcément je me suis dit, mais voilà le type d'initiative taillée sur mesure pour une presse locale branchée numérique et données. L'Atelier des médias vous propose donc aujourd'hui de s'interroger sur l'information locale à l'heure du numérique et de l'open data. Qu'est-ce qu'un média local? Comment ça marche? Mais surtout, comment le construit-on? Dans la deuxième partie de l'émission, nous prendrons donc le temps d'interroger deux journalistes qui, depuis des années, s'efforcent de réinventer l'info locale. Dans une dizaine de minutes, nous rencontrerons Vincent Lastenette. Ce journaliste de données mène avec DataSpot une expérience qui défriche, qui déchiffre et qui décrypte de la donnée locale pour le journal Le Télégramme. Je ne vous en dis pas plus. Mais tout de suite, je vous propose de partir au Burkina Faso avec l'homme aux 1 million de vidéos vues sur sa web TV. Et c'est notre coup de fil de la semaine.
L'Atelier des médias. Le magazine du numérique et de l'innovation.
Bonjour Inoussa Maïga.
Oui, bonjour.
Je vous appelle parce que vous avez lancé début 2016 un projet extraordinairement ambitieux, agribusinesstv.info. Alors pour le dire très vite, agribusinesstv.info, c'est une web TV focalisée sur les questions d'agriculture et d'innovation. J'ai envie de revenir sur votre histoire. Vous êtes journaliste, vous êtes basé à Ouagadougou et ça fait longtemps que vous vous intéressez à ces questions. D'ailleurs, vous avez commencé en bloguant sur ces questions, je me trompe pas?
Tout à fait, c'est exactement ça. J'ai commencé à travailler comme journaliste en 2008-2009 dans une agence de presse privée. Et depuis ce temps, donc, je me suis toujours intéressé par les questions d'agriculture. Et oui, ce sont ces développements qui m'ont conduit là où je suis aujourd'hui.
Et l'agriculture, c'est un peu pour vous une histoire de famille, un héritage presque.
Exactement. Moi-même, je viens personnellement d'une famille d'agriculteurs. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est l'école qui m'a éloigné des champs. Et aujourd'hui, en tant que journaliste, j'essaie de revenir aux champs, mais autrement, pas pour cultiver, mais pour essayer de mettre mes compétences de journaliste au service de ce secteur qui est très important pour nos pays.
Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a décidé à lancer un projet, une web TV qui s'appelle Agribusiness TV?
On constate que l'agriculture en Afrique a un sérieux problème d'image qui fait que beaucoup de gens, quand on parle d'agriculture, ils ont tendance à voir comme le secteur où évoluent ceux qui n'ont pas pu réussir à l'école. Et oui, en réfléchissant à ça, je me suis dit que oui, il y avait quelque chose à faire pour essayer donc de revaloriser ce secteur-là.
Et j'ai presque envie de dire, pas seulement revaloriser, c'est même soutenir les efforts à la fois d'innovation et de développement d'initiatives qui font que l'agriculture peut vraiment se réinventer.
Exactement, parce que j'ai participé durant ces 2-3 dernières années à beaucoup de conférences où il était toujours question de l'engagement des jeunes dans l'agriculture. Et moi, l'observation que j'ai pu faire de ces conférences, c'est qu'il était tout le temps, on parle de oui, les jeunes doivent faire ça, il faut faire ça pour aider les jeunes à s'engager, comme s'il n'y avait absolument rien du tout qui était fait dans le domaine. Donc moi, en allant sur le terrain, j'ai l'habitude de rencontrer des jeunes qui font vraiment des choses intéressantes. Je me suis dit, oui, déjà, il fallait travailler à mettre en lumière ces jeunes-là qui font beaucoup de choses intéressantes et dont on n'a pas l'habitude d'entendre.
Et d'ailleurs, ça se sent quand on voit la façon dont vous fabriquez finalement vos sujets sur Agribusiness TV. L'idée, c'est de s'adresser à un public qui s'informe autrement. Du coup, ça se traduit par des vidéos sur lesquelles on a pas mal de textes, par un montage assez rythmé et puis aussi, si je ne me trompe pas, par une façon de monter et de diffuser qui s'approprie pleinement la plateformisation du web, c'est-à-dire vous fabriquez des vidéos surtout pour les réseaux sociaux.
Exactement. Pour nous, ça a été une démarche très intéressante, à la fois pour moi et pour l'ensemble des autres qui sont engagés dans cette aventure, parce qu'on a essayé de réfléchir à proposer quelque chose qui était à la fois assez original, mais aussi qui colle le plus possible donc aux attentes et aux besoins d'information et de communication de notre public cible, à savoir donc les jeunes qui communiquent aujourd'hui principalement à travers les réseaux sociaux et qui se connectent principalement aussi à travers l'Internet mobile, donc le téléphone portable. Il a fallu réfléchir à comment on peut proposer un contenu qui est ça. Et justement, oui, tous les contenus, si vous voyez, ça va être des vidéos, mais on les fait de telle sorte que la vidéo puisse être comprise même sans le son. Ce qui fait que même quand l'individu parle parfaitement le français, on sous-titre entièrement la vidéo en français. Au départ, il y a quelques internautes qui n'ont pas compris cette démarche. Ils se demandaient pourquoi des sous-titres. Est-ce que c'est le fait que les Africains sont encore complexés? Non. On a beaucoup expliqué à certains quel était l'objet de cette démarche et je pense que oui, ça a un certain succès.
Alors, Inoussa Maïga, quand on monte comme ça Agribusiness TV, qui est une web TV, il faut combien de personnes? Vous êtes combien? C'est quoi l'équipe qui est derrière vous?
Alors, ici, à Ouaga, nous avons 3 personnes. Il y a moi, en plus, la personne qui s'occupe de tout ce qui concerne la promotion des contenus une fois que c'est en ligne. Et aussi, on a une personne qui est responsable donc du montage de toutes les vidéos. Parce que nous travaillons de telle sorte que nous avons des journalistes dans les différents pays où que nous couvrons déjà. Quand on s'accorde sur des sujets, ils nous produisent et nous envoient les images brutes suivant donc un canevas qu'on a convenu au départ. Et on fait le montage sur place ici. Cela nous permet d'avoir un contenu assez harmonisé. Donc on peut dire, voilà, sur ce projet, on a une dizaine de personnes.
Et alors, finissons peut-être avec les questions qui fâchent, je veux dire le modèle économique. Comment avez-vous réussi à amorcer ce projet, d'une part, et puis surtout, comment est-ce que vous comptez le pérenniser?
Alors oui, l'idée, c'est vrai que ça a quand même un coût énorme pour fonctionner sur une phase pilote d'environ 10-12 mois. On a un budget qui tourne autour de 60 000 euros. Alors, pour pouvoir le lancer, nous avons participé à une compétition d'une structure et cela nous a permis de décrocher un financement, alors, qui couvre à peu près 85%. Et oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, je suis moi-même responsable d'une agence de communication qui s'appelle Mediaprod, qui est donc la portrice du projet Agribusiness TV. Et on s'est dit qu'encore peut-être un an, deux ans, on va essayer de mobiliser des ressources additionnelles à travers toutes les structures d'appui au développement qui peuvent donc être intéressées par cette question de l'engagement des jeunes. Mais voilà, sur le long terme, on envisage quand même mobiliser des ressources surtout à travers des annonceurs. Et en diversifiant aussi, en réfléchissant à d'autres façons de valoriser les contenus qui sont déjà existants. Et on puis... s'est dit que c'est des vidéos assez intéressantes. On réfléchit en ce moment à la conception d'un magazine télé. Et là, ça peut être un moyen, on l'espère aussi, de mobiliser plus d'annonceurs qui, pour l'instant, sont un peu réticents quand il s'agit d'accompagner des initiatives, ouais. En tout cas pour ce qui concerne les sociétés en Afrique.
Alors, pour retrouver votre travail, c'est finalement très simple. Il suffit de taper agribusinesstv.info dans votre navigateur.
Oui, ou aussi télécharger tout simplement notre application mobile qui est disponible gratuitement sur iPhone et Android.
Merci.
Voilà. Merci, au revoir.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? C'est une information qui est sortie en début de semaine et qui pourtant n'a pas fait tant de bruit que cela en France. Dans un éditorial intitulé « Pas de pardon pour Edward Snowden », le Washington Post s'est prononcé en faveur de poursuites à l'encontre du lanceur d'alerte américain. Pourquoi maintenant? Parce que le sort de Snowden s'est invité dans la campagne présidentielle américaine avec, en toile de fond, une question. Obama doit-il accorder la grâce présidentielle à l'informaticien? Mais sur le fond, que reproche le média américain à Edward Snowden? Le Washington Post avait pourtant participé, aux côtés du Guardian, aux révélations sur la collecte automatique de métadonnées des citoyens américains par les agences de renseignement. Alors quoi? Le Washington Post tient le raisonnement suivant. Certes, Snowden a permis de remettre les agences de renseignement dans le droit chemin de la législation fédérale américaine. Comment? En protégeant les citoyens contre des écoutes abusives. Mais selon le journal, Snowden ne s'est pas contenté de veiller au respect de la Constitution américaine. Edward Snowden a alerté le monde entier sur un certain nombre d'opérations secrètes menées par des agences spéciales américaines, comme, par exemple, l'espionnage de la Russie où s'est réfugié le dit Snowden. Le journaliste Glenn Greenwald a aussitôt réagi dans The Intercept pour dénoncer l'hypocrisie d'un média qui a choisi de trahir sa source tout en criminalisant, au passage, la désobéissance civile. Pourtant, ce sont ces mêmes révélations qui ont permis au Washington Post de révéler le scandale des écoutes et ce sont ces informations qui ont valu un prix Pulitzer au journal ainsi qu'un nombre incommensurable de visites sur son site. À quoi ressemble l'Internet nord-coréen ? Réponse à un immense intranet en forme de vitrine du régime de Pyongyang. Et c'est un bug informatique qui, selon Télérama, est à l'origine du North Korea DNS leak. Un hacker américain a en effet déposé sur la plateforme GitHub la liste des 28 sites se terminant en .kp. Alors quoi de beau sur la toile du cher dirigeant Kim Jong-un ? De la propagande pro-régime, de la propagande anti-Corée du Sud, des recettes de cuisine ou encore une agence de voyage. Cela dit, seule l'élite du régime peut jouir de cette intranet rudimentaire et spartiate. Allez donc faire un tour sur craveonline.com, c'est assez curieux et ça mérite le voyage. La santé de Robert Mugabe, 92 ans, président du Zimbabwe, mais surtout plus ancien chef d'État de la planète, vous inquiète-t-elle ? Le New York Times a trouvé la solution pour vous. Téléchargez une application de suivi du trafic aérien comme FlightAware ou FlightRadar 24. Suivez ensuite le FlightOne de Air Zimbabwe. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'avion présidentiel. Ajoutez ensuite UM1 et là, bingo, vous êtes sûr, Robert Mugabe est à bord. Et alors, me direz-vous ? Eh bien, le journal a pu constater que nombre des déplacements impromptus du président du Zimbabwe le conduisent souvent dans des villes comme Singapour. Et alors, me direz-vous encore ? Eh bien, rappelez-vous, Wikileaks nous apprenait il y a quelques années que Robert Mugabe était venu à Singapour déjà en 2008 pour se faire soigner d'un cancer de la prostate. C'est très malin de la part du New York Times et il faudra essayer avec d'autres appareils présidentiels pour voir ce que ça donne. Vous n'avez pas pu noter tous ces liens, toutes ces références, toutes ces applications à télécharger ? Eh bien, on a tout prévu à l'atelier, c'est magique, nous venons tout juste de les tweeter sur @atelier_media.
L'atelier des médias, Julien Lebotte.
C'est au bout du bout de la Bretagne, du côté de Morlaix, que s'invente un journalisme local à la fois inédit et plutôt agile. Tellement agile que Vincent Lastenette, journaliste de données volontiers partageur et pédagogue, était à Nantes cette semaine pour participer au Media Lab Speed Training, une journée d'atelier organisée par West Media Lab et dont on reparlera bientôt. Et ça tombe bien parce que notre reporter Manon Mella était sur place. Alors, DataSpot, qu'est-ce que c'est Vincent Lastenette ?
DataSpot, c'est une rubrique dédiée au data journalisme qu'on a mis en fait en place sur le site internet du Telegram il y a maintenant 10 mois et qui a pour but en fait de recenser un peu tous les travaux qu'on a fait autour du data journalisme.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez créé cette cellule DataSpot ?
On a fait un passage assez important, en tout cas, qui était de passer sur un site semi-gratuit, c'est-à-dire de mettre en place un paywall et donc de passer sur du contenu simplement réservé aux abonnés. C'est ce cap-là qui nous a poussé à nous poser des questions sur ce qu'on mettait sur le numérique et d'essayer d'apporter en fait du contenu à forte valeur ajoutée par rapport à ce qu'on pouvait faire dans le papier. Et le data journalisme a été une des pistes et on a choisi de s'engager sur cette piste-là.
Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de projets data journalistiques que vous avez développés dans cette rubrique ?
Alors, tout est parti d'un sujet insolite. Enfin, tout est parti, c'est celui qui a fait une audience très importante dès le début. C'était tout simplement une carte des bistrots en France. Donc, on avait récupéré les données de l'INSEE et on a mis la densité de débit de boissons par habitant sur toute la France. Cette carte a fait un carton, puisque visuellement, elle était assez éloquente. On voyait la Bretagne avec un nez rouge et elle a été diffusée et partagée des milliers et des milliers de fois sur les réseaux. Ça fait plus de 500 000 vues sur le site, plus de 2 millions ou 3 millions sur Facebook. Donc voilà, ça c'est un carton, on est dans de l'anecdotique. C'est la carte qui a été partagée, le papier de 300 lignes derrière qui explique un peu le côté sociologique et intéressant du débit de boisson a été, je pense, moins lu. Mais au moins on a accroché et peut-être qu'on a de toute façon fait plus de lecteurs. On a également fait des choses sur des sujets très sérieux comme la dotation globale de fonctionnement, tous ces sujets que la presse quotidienne régionale doit traiter, mais qui sont quelquefois très difficiles à expliquer aux lecteurs. Là, on a utilisé la data visualisation pour le présenter, en faisant une évolution, en donnant une équivalence sur les évolutions, c'est-à-dire plutôt que de dire la commune a perdu 1 million, on a fait un rapport pour pouvoir dire que la commune a perdu l'équivalent d'un rond-point et de deux temps plein.
Qu'est-ce que le data journalisme apporte à l'information locale ?
Alors, le data journalisme, ou plutôt ou la compétence numérique pour traiter l'information et pour l'offrir, ça peut apporter une profondeur aujourd'hui à l'information locale. C'est-à-dire que là, on peut vraiment descendre au niveau de la commune, voire au niveau du bout de la rue. Qu'est-ce qui se passe auprès de chez moi ? On peut le faire sur de l'enquête et sur des données qui vont être sur les impôts, sur les revenus, sur ces choses-là, descendre vraiment à un point très précis. On peut aussi l'imaginer sur du pratique et de l'utile, sur des équipements, et véritablement, c'est une bonne manière de se rapprocher vraiment de notre lecteur et d'être au plus proche de ses préoccupations.
Justement, est-ce que vous avez déjà eu des retours de lecteurs sur cette façon de traiter l'information qui est quand même assez nouvelle pour un lecteur de presse locale ?
Le data journalisme, pour l'instant en tout cas, et j'espère que ce sera plus qu'une mode, mais jouit plutôt d'une belle image dans cette logique où c'est vrai qu'on essaie de ne pas être dans le temps des communicants et nous, de faire les sujets le plus honnêtement possible avec les faits dont on dispose. Donc on est dans cette démarche-là. Donc les retours sont plutôt positifs et on développe une communauté qui nous aide aussi à travailler, qui nous alerte. Et le but du jeu est de travailler de plus en plus avec aussi nos lecteurs, avec le maximum d'honnêteté possible. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on pourra peut-être faire dans 2 ou 3 mois. Mais l'idée, c'est faisons-le ensemble. Et à défaut, on n'est pas à l'abri d'une erreur, mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est au moins on va être honnête dans la démarche. Voilà, c'est ça l'idée.
Et vous, c'est quoi votre formation ? Parce que c'est quand même un peu, il faut avoir des compétences particulières pour traiter des données.
Alors moi, j'ai une fac de droit, voilà. Donc c'est aucun rapport avec le code. J'ai eu une enfance agréable. J'ai pas été derrière un ordinateur toute ma vie. Je suis pas ce qu'on appelle un geek. J'ai vraiment découvert le numérique en 2009. Par mon métier, en devenant journaliste web à la base, et je me suis, ce qui m'a intéressé, c'est parce que je suis quand même assez flemmard dans la vie, c'est de me dire pourquoi faire des choses qu'un ordinateur pourrait faire beaucoup plus vite que moi. Et donc c'est le travail aussi un peu répétitif d'un desk web qui m'a ouvert les yeux sur la possibilité qu'on devait maîtriser mieux le numérique. Parce que aujourd'hui, voilà, bâtonner des choses, c'est quasiment un travail d'ordinateur. Alors pourquoi ne pas le faire pour le coup par un ordinateur ? Et en mettant le nez là-dedans, on se rend compte que plus on apprend des choses, plus ça ouvre des possibilités, de nouvelles narrations, de nouveaux traitements. Donc il y a le data journalisme, il y a plein d'autres choses. L'important, je pense que c'est vraiment en local de développer ses compétences numériques et des vraies compétences numériques, c'est-à-dire aussi mettre les mains sous le capot et être capable de comprendre le code pour faire des choses très rapidement.
Et vous êtes combien alors à travailler à DataSpot ?
Alors l'idée justement, ça n'a pas été de faire une cellule coupée de la rédaction. Donc je suis seul, mais je travaille potentiellement avec tout le monde.
Et est-ce que vous avez influencé d'autres journalistes, d'autres rubriques du journal ? Est-ce qu'il y a comme ça une espèce de circulation du savoir au sein de la rédaction du Télégramme ?
Moi, je pense que c'est le but, c'est d'avoir une circulation, c'est ça. Donc moi, j'essaie de travailler de plus en plus avec des journalistes de certains services qui se rendent compte aujourd'hui que justement, des idées de sujets qu'ils avaient depuis longtemps et qui pensaient à la limite difficiles à traiter, eh ben ils commencent à venir m'en parler, on discute. Je prends un exemple tout bête qui va être sur les gagnants du loto. Et donc, j'ai un journaliste qui m'a dit « Mais t'aurais pas moyen d'avoir des données un peu plus costauds ?» Et donc, je suis allé voir auprès de la Française des Jeux et on a travaillé avec eux. Ils m'ont sorti un fichier de tous les grands gagnants. Et donc, on a fait un fichier data sur les 20 dernières années, toutes les personnes qui ont gagné plus d'1 million d'euros à la loterie Française des Jeux. Ce qui permet derrière d'avoir ce côté un peu stat, de voir et de sortir des sujets. Parce qu'on a vu qu'il y a une petite commune qui s'appelle Carlouan, qui compte 1200 ou 1300 habitants, qui a eu 2 millionnaires dans la période. Et c'est dans le même tabac, et c'est la même famille, c'est le fils qui a repris, et donc du coup on a un super portrait. Mais on ne l'aurait pas eu sans data, ou alors au doigt mouillé. Donc c'est un exemple. Voilà, l'idée est vraiment plus d'insérer la data dans le processus de création d'un article, et de ne pas attendre la fin.
Merci beaucoup Vincent.
Merci.
On marque une petite pause si vous le voulez bien, et on se retrouve dans 3 minutes après le flash pour continuer de parler de la métamorphose des groupes de presse locaux. Atelier des médias, deuxième partie.
Informons, inventons, discutons. L'atelier des médias.
Julien Lebotte.
La bonne vieille presse locale n'est pas la belle endormie que l'on décrit parfois. Au contraire, Nombreux sont celles et ceux qui s'efforcent de réinventer la notion de proximité ou d'info locale, de redonner du sens au travail du localier, de différencier le travail du journaliste professionnel du blogueur hyper spécialisé sur son quartier ou des groupes Facebook de partage de bons plans et parfois même d'intox. Et c'est là, précisément là, que l'on mesure tout ce qu'il y a à construire et à réinventer. Une rédaction locale à l'heure du mobile et du journalisme de données, comment ça marche? Un journaliste localier câblé numérique, comment ça bosse? Une rédaction historique qu'il s'agit d'accompagner et de transformer, comment s'y prendre? Enfin, pour répondre à toutes ces questions qui peuvent donner des idées ou susciter des vocations, j'ai eu envie d'inviter deux acteurs de cette métamorphose. Et on va commencer par vous, Paul-Alexis Bernard, qui baignait dans les questions d'info locale et de numérique depuis pas mal d'années maintenant. Bonjour Paul-Alexis.
Bonjour.
Alors vous, vous venez du groupe Centre France La Montagne, qui est un groupe très ancien dans le paysage et qu'il est assez compliqué de cartographier. Alors pour le dire très vite pour les auditeurs, il rassemble des quotidiens, des hebdos, du multimédia, enfin c'est une grande maison. Paul-Alexis, aidez-nous, deux ou trois chiffres pour aider à comprendre ce que c'est que le groupe Centre France La Montagne.
Ouais, rapidement, c'est 8 quotidiens qui sont tous des quotidiens régionaux ou départementaux, qui sont, pour les situer entre la région parisienne et le cœur, le centre de la France, jusque les limites du sud en Auvergne. C'est plusieurs hebdomadaires en effet, des sites internet qui sont liés aux marques des quotidiens. C'est quand même autour de 500 journalistes qui sont dans l'ensemble des rédactions du groupe. Donc c'est un groupe de presse discret, mais en même temps d'un joli volume et un excellent terrain pour expérimenter des choses et faire des choses.
Alors justement, le groupe Centre France, comme tous les groupes de presse, doit se transformer s'il veut continuer d'exister à l'heure du numérique. Et vous, votre mission, c'est précisément de réussir à mettre en place des innovations au sein de ce qu'on appelle le lab. Et si je ne me trompe pas, le lab, c'est tout sauf un bureau de prospective qui regarde passer des tweets. C'est une autre façon de travailler à l'intérieur d'un groupe de presse. Paul-Alexis Bernard.
Alors, oui, c'est pas une structure de recherche et développement telle qu'on pourrait l'avoir dans d'autres médias ou surtout dans d'autres secteurs d'activité. On est beaucoup plus branché au terrain, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche et du développement plutôt à travers de l'expérimentation et on va auprès des équipes pour tester des formats, des outils, des modes de collaboration avec nos audiences. Donc on expérimente à travers le terrain et l'ensemble des rédactions.
Alors pour le dire autrement, ça veut dire que vous n'avez pas un grand cahier ou un grand livre blanc qui vous donne 5 années de transformation hyper précises, vous avez testé des formats dans différentes locales en impliquant les équipes.
Alors, on construit quand même une forme de stratégie éditoriale, c'est-à-dire qu'on a réussi à définir où on voulait aller en termes de repositionner le journalisme local tel qu'on pense qu'il doit évoluer. Donc ça, on l'a quand même posé, mais on le pose à travers notamment la remontée du terrain et des choses qu'on expérimente. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher que dans des études ou dans du benchmark, on va pas voir tous nos petits camarades pour voir comment ils font pour faire pareil. On essaie plutôt de faire remonter du terrain ce qu'on doit faire.
Alors justement, si on essaie de décomposer un petit peu les chantiers sur lesquels vous vous êtes lancé avec le Lab et le groupe Centre France, je crois que vous êtes d'abord intéressé à ce qu'on pourrait appeler l'hyperlocal. Peut-être on peut commencer par une définition. C'est quoi l'hyperlocal ?
Notre valeur, de toute façon, en tant que média local, de presse quotidienne régionale traditionnelle, la valeur principale, c'est quand même l'information dite locale, ou maintenant on dit hyper locale, c'est l'échelle quasiment de la rue, du quartier, et c'est pas seulement l'information régionale institutionnelle. Donc, en effet, on travaille tous les niveaux d'information, mais y compris l'information nationale et internationale, qu'on traite en soi, parce que on est un programme général d'information et que les gens s'y intéressent. Mais on essaie notamment d'innover sur la partie la plus proche des gens. On essaie de trouver une forme de proximité avec nos lecteurs.
Et alors justement, cette proximité, ça veut dire l'implication en un certain sens des communautés locales d'internautes. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet l'écoquartier.fr ?
Alors, l'écoquartier, en effet, il y avait une volonté d'une rédaction, encore une fois, ça vient du terrain et de la volonté des confrères, de travailler avec des collégiens. Et en même temps de travailler sur l'hyperlocal au sens d'actualité de quartier. Donc on a expérimenté une verticale, un petit site internet dédié à l'actualité des quartiers sur le terrain de l'éco-républicain à Chartres et à Dreux, en collaboration avec les collégiens.
Il y a vraiment un accompagnement et une animation de la communauté locale par précisément le journal ou en tout cas les gens qui sont dans l'encadrement de ce dispositif hyper local.
Absolument, on essaie d'être plus proche des gens et de leur parler d'une actualité la plus proche possible, mais en plus de les impliquer dedans, ce qui encore une une fois, n'est pas forcément naturel pour un journaliste dans une rédaction classique. Voilà, on expérimente plein de choses pour se rapprocher le plus possible de la co-construction de l'information locale.
Et est-ce que ça marche auprès du jeune public? Parce que j'imagine que l'un des enjeux aussi, c'est évidemment de rajeunir l'audience et de réussir à les impliquer dans cette co-construction ou cette écriture partagée.
Alors, cette problématique n'est pas simple du tout. D'ailleurs, sur l'éco-quartier, en fait, on s'est rendu compte que, certes, les collégiens sont impliqués, mais c'est pas forcément l'essentiel de l'audience. Et même au-delà de ça, les gens qui se sont emparés du contenu, qui ont réagi et qui ont suggéré des choses pour, encore une fois, co-construire l'info, sont pas nécessairement que des collégiens. Au contraire, c'est aussi des adultes, des habitants du quartier qui se sont emparés du travail des collégiens pour parler d'autre chose ou pour poursuivre la discussion. Le public jeune est vraiment un public extrêmement complexe à faire rentrer dans l'information locale telle que nous on l'a fait. On le travaille, on expérimente, c'est pas simple.
Autre chantier finalement entrouvert par nombre de rédactions locales, c'est celui du journalisme de données. Et là, je me tourne vers mon second invité. Je veux parler d'Arnaud Wery, qui nous vient de Belgique et qui vient d'ailleurs avec nous fêter les 10 ans du site internet de l'avenir.net. Bonjour Arnaud.
Bonjour Julien.
Alors vous, ce que j'aime dans votre travail, Arnaud, c'est d'abord votre excellent blog qui s'appelle Web Journaliste en presse régionale et locale. C'est, pour le dire techniquement, tout simplement un WordPress qui documente patiemment votre travail, vos tests et qui se transforme parfois en exercice d'admiration ou en tutoriel embarqué. Première question toute simple, le journalisme de données localement, est-ce que ça marche? Et puis est-ce que vous avez un exemple concret?
Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il n'y a pas de secret. En fait, travailler avec les données, il faut toujours se demander est-ce que les données vont vraiment intéresser le public? Est-ce que le public qui est notre public, est-ce que les données sont vraiment en raccord avec ça? Donc voilà, c'est déjà la première chose avant de se lancer dans un travail. Et après, parfois, donc, ça marche assez bien. Un de nos meilleurs coups, entre guillemets, c'était, on avait un petit peu listé tout ce que les conseillers municipaux touchaient lors des réunions. C'était des données qui n'étaient pas connues, en fait. Donc, on a patiemment contacté chaque administration communale. Et au final, on a eu des données qui ont suscité pas mal de débats. Donc, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment avec la donnée qu'on a pu susciter un débat qui était démocratique, parce que ça touchait les élus, des personnes pour qui on a voté ou pas, et qui, après, ont dû parfois s'expliquer en disant « c'est pas vraiment ça que je touche, je dois remettre une partie », mais il y a eu un débat.
Et à l'avenir.net en Belgique, donc vous sentez que il est possible de réussir à lancer des projets de cette nature et le public répond parfois plutôt présent?
Oui, là, on a par exemple dans les cartons, on a plusieurs projets. Le projet, par exemple, sur les conseils municipaux, c'était vraiment sur une toute petite rédaction qui m'a vraiment servi de laboratoire. Là, maintenant, je travaille sur l'ensemble du groupe au niveau information régionale. Et là, on a plusieurs projets qui sont plutôt axés sur les données, mais des données très concrètes. En fait, on va vraiment essayer d'avoir, on va vraiment voir si le public peut accrocher avec ça. Et alors, dans ce cas-là, ça peut ouvrir des portes, d'autres portes. Et surtout des portes au niveau de tout ce qui est rédaction en chef pour dire « ok, on peut dégager du temps pour mener de nouveaux projets ».
Et techniquement, ce ne sont pas des projets très très complexes ou ça demande beaucoup beaucoup de temps pour réussir à le mettre en place?
C'est vrai qu'au début, on commence un petit peu, voilà, on bidouille soi-même et puis on peut prendre vite le pli de se dire « bah tiens, je pourrais me faire aider par un développeur ». On peut vite être gourmand, mais je pense qu'il faut vraiment se dire « quel est le temps dont j'ai vraiment réellement besoin sans trop de « waouh ». C'est vraiment quelque chose de concret. Comment ça fonctionne? Est-ce que la personne qui arrive sur cette page va comprendre en fait ce qu'on lui propose de découvrir?
Est-ce qu'au niveau local, il n'est pas aussi parfois difficile de réussir à trouver des données utiles et pertinentes pour réussir à fabriquer des histoires ou des articles? Parce qu'il y a cet enjeu-là aussi, c'est-à-dire faire du journalisme de données, d'accord, c'est bien mignon, mais pourquoi faire? À quelle fin?
Donc là, c'est clair qu'il y a très peu de données qui sont déjà accessibles sur le web. Il faut vraiment le faire, je disais toujours à l'ancienne, c'est contacter administration communale par administration communale. Donc c'est un temps qu'il faut se dire, on va l'échelonner sur plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pas grave, on fait ça, on fait des choses à côté. Vraiment pour avoir, se dire, après on a un projet qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Ça c'est intéressant, c'est qu'on va raconter des histoires différemment.
Alors au groupe Centre France, Paul-Alexis Bernard, vous avez recruté un journaliste de données qui s'appelle Julien Gégaud, qui travaille je crois côté back-office. Alors ça veut dire quoi un journaliste de données qui travaille côté back-office?
Je résume comme ça en disant back-office, mais l'idée c'est qu'il n'est pas là pour faire le journalisme de données pour l'ensemble des titres du groupe, mais il est là pour accompagner les rédactions. Encore une fois, on a 500 journalistes pour qu'il s'empare de ces questions de journalisme de données. C'est-à-dire qu'il est en back-office dans le sens où c'est pas lui qui produit tout la production de data journalisme du groupe. Il vient d'arriver, c'est pas encore complètement mûr chez nous. Mais dans sa lettre de mission, c'est d'abord d'accompagner les confrères pour qu'ils s'emparent de ces questions-là. Et notamment, au-delà du bidouillage dont parlait Arnaud et des capacités qu'on a de manipuler de la donnée et de la donner à de la livrer visualisée à un lecteur, il y a déjà un premier chemin qui est que le journaliste doit d'abord s'intéresser aux données. Et ça, c'est pas simple. Un journaliste dans Excel, enfin, il y en a probablement une bonne partie qui sera un petit peu allergique à la question de tableau, de trier des données, de les sélectionner. Le journalisme des données, avant de bidouiller du code et de données à visualiser, c'est d'abord ça, en fait. C'est de comprendre ce qu'il y a dans une masse de données. Donc, nous, on a maintenant quelqu'un à disposition où la rédac, s'ils reçoivent des gros tableaux avec plein de choses, des gros rapports, ils ont quelqu'un vers qui se tourner qui va les aider à investiguer autour de ces données.
Donc on a vu un petit peu tout ce qui était autour de l'hyperlocal, de la donnée. Autre chantier pour les rédactions locales, c'est celui du journalisme qui peut être tourné, fabriqué avec un mobile. Chez Centre France, vous, côté développement de l'offre vidéo, plutôt que de se centrer sur la question du mobile, j'ai l'impression que vous avez aussi essayé de développer des choses, en un certain sens assez radicales, qui permettent de mêler la question des communautés et de l'utilisation de vidéos à partager sur les réseaux sociaux. Je parle de Dans ton com, on écoute un extrait.
Bonjour à tous.
Bonjour et bienvenue dans ton com.
Dans un article paru le 20 janvier sur notre site internet, nous vous expliquions que la mairie Clermont envisageait de détruire la muraille de Chine. Vous savez, ce grand bâtiment HLM qui domine Clermont-Ferrand.
Et forcément, cette éventualité vous a fait beaucoup réagir. Jérémy, lui, a choisi l'humour.
Oh mince, c'est trop bête. Détruire le plus beau monument de Clermont, un coup dur pour le tourisme.
Un commentaire que vous avez été des centaines à aimer.
Sur ce sujet, en vous lisant, nous avons constaté que vous étiez plutôt favorable à la destruction de cet immeuble. Juju nous signale.
J'ai parlé avec l'architecte une fois, ce bétonnage n'était pas fait pour durer autant dans le temps. Vivement la démolition avec une reconstruction en petits immeubles avec jardin.
Et pour financer la reconstruction, Rémi propose même une solution.
Sinon, les 70 millions d'euros pour agrandir le stade, on les investit pour faire du quartier Saint-Jacques un quartier dynamique avec des bureaux, des logements et des entreprises.
Effectivement, ça peut être un choix, mais ce sera surtout celui de la mairie.
Et puis, sur cette muraille de Chine, vous êtes, comme Stan, quelques-uns à être nostalgiques.
La muraille de Chine fait partie du patrimoine visuel de Clermont-Ferrand, donc s'il vous plaît, n'y touchez pas, rénovez plutôt, apparemment, il y a de l'argent à dépenser.
Et enfin, il y a Pascal qui, elle, ne croit pas du tout en sa destruction.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Pouvez-vous, Paul-Alexis Bernard, décrire rapidement aux auditeurs le fonctionnement de Dans ton com ? Visuellement, comment ça marche, mais surtout, est-ce que ça marche ?
Visuellement, c'est assez simple. On a essayé de monter un dispositif, un format vidéo qui n'est pas en studio, qui est léger. En fait, c'est deux confrères qui sont devant un ordinateur et une webcam. Donc, ça a l'avantage d'être facilement déployé et tourné. Et en fait, ils discutent entre eux en réagissant sur des commentaires qui ont été postés par nos lecteurs ou nos internautes sur nos communautés, soit sur Facebook ou même éventuellement sur Twitter. Donc, c'est assez simple. Et c'est la valorisation de l'interaction qu'on a avec nos lecteurs. On essaie de bosser beaucoup là-dessus. Il ne sert à rien juste d'ouvrir aux commentaires et de lancer des communautés Facebook si on ne valorise pas et si on ne rentre pas, nous, en interaction avec ce que les gens nous proposent de construire.
Oui, d'ailleurs, il y a eu un vrai travail d'éditorialisation des commentaires, comme on l'entendait bien dans cet extrait sonore, c'est-à-dire que les animateurs rebondissent, réagissent et quelque part font avancer le débat. Donc, on revient sur cette idée qu'on abordait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on anime précisément la communauté locale sur des grandes problématiques qui concernent la vie de tous les jours.
Oui, grande ou petite, après, ça reste de l'information locale. Donc, encore une fois, on s'intéresse potentiellement à un arrêt de bus qui est déplacé, autant qu'à un scandale autour de l'utilisation de subventions ou de choses comme ça. Donc, et tous ces sujets, on les met tous au même niveau en termes d'importance, encore une fois. L'information petite, les gens s'en emparent, ça veut bien dire qu'il faut que nous, on s'en empare.
Et quand le cœur de métier initial, c'était l'écriture, c'était le fait d'être au plus près du terrain, c'était de rapporter, dans quelle mesure et comment s'est vécu en fait le fait de se lancer dans la production de tels formats vidéo, Paul-Alexis Bernard ?
Ouais, c'est pas simple, parce que comme le disait Arnaud tout à l'heure, il y a aussi juste le fait de mettre sa trombine devant une caméra, ce qui est juste absolument pas naturel pour un journaliste de presse écrite, voire même il y est potentiellement un petit peu, enfin, il y va à reculons. Donc, nous, on n'oblige personne. On essaie de faire comprendre aux confrères que ça a un intérêt. Comme Arnaud le dit, dès le lendemain, il a mesuré le fait que les gens, du coup, échangeaient avec lui et s'impliquaient, du coup, dans l'information. Donc, on essaie de faire comprendre ça aux confrères et donc de leur dire, c'est simple, il faut, sortir de certains complexes et essayer. Et vous allez voir, ça a probablement un intérêt.
Alors vous, à l'avenir.net, Arnaud Wery, j'ai l'impression justement que, avec votre blog, votre façon de travailler et de partager vos retours d'expérience, on sent un certain appétit pour ces nouveaux formats, tout en étant lucide, c'est-à-dire qu'on teste et parfois on sait que ça ne marche pas. Est-ce que vous sentez que cet appétit et cette envie de tester, elle est plutôt partagée? Est-ce que vous sentez d'ailleurs des évolutions dans le regard que vos confrères portent sur ces nouveaux outils à la disposition des rédactions?
Moi, en fait, tout a démarré vraiment avec quand j'ai commencé un petit peu à bidouiller de la data. Ma responsable m'a tout de suite encouragé. Et donc là, déjà, quand on a sa responsable directe qui encourage, qui peut dégager du temps, c'est vraiment là, on sent aidé. Et de là, vraiment, il y a tout a commencé à se mettre en place. Après, c'est un long travail. Enfin, je pense que Paul Alexis le sait. Faire bouger les choses, c'est vraiment y aller pas par pas. Parfois, il y a des portes qui vont se reclapper sur le nez. Ben, bon, c'est à rentrer par la fenêtre ou on se dit peut-être que dans 3 semaines, la porte sera un petit peu plus ouverte. Donc, c'est beaucoup de patience. Il n'y a pas une personne qui a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées dans toutes les rédactions. Il faut juste pouvoir dire, dans cette rédaction-là, il y a un chouette projet. N'hésitez pas à regarder. On a beaucoup. Nous, on a 10 rédactions locales. On s'occupe du sud de la Belgique. Donc, moi, mon idée, c'est vraiment si on a créé une page Facebook fermée, une page groupe où toutes les bonnes pratiques, ou en tout cas tous les tests, sont partagés pour que on fasse un test. C'est peut-être pas terrible, il faut peut-être améliorer ça. Une rédaction va 3 semaines plus tard faire le même test en améliorant justement. Et ça, je trouve ça vraiment très enrichissant. J'ai eu, je me rappelle, j'avais fait une petite application pour les plaines de jeu, trouver une plaine de jeu tout près de chez soi. Je l'avais expliqué sur mon blog et c'était assez sympa. Nice Matin avait repris l'idée et ils avaient justement amélioré ce que j'avais pointé. Je disais, il faut peut-être améliorer ça. Et eux l'avaient fait. Et moi, je trouvais ça absolument génial que des personnes qui sont même extérieures au groupe reprennent une idée et essayent de l'améliorer à leur façon. Je trouvais que c'était vraiment, c'est vraiment très encourageant. Ça m'encourage vraiment pour faire le blog.
Et alors là, il y a deux choses. Il y a décloisonner à l'intérieur, par exemple, des locales dans un même groupe. Et puis, il y a le décloisonnement général entre les différentes rédactions locales qui peuvent échanger, partager, reprendre des bonnes idées, voire améliorer les projets. C'est ce qui s'est passé avec Nice Matin. Des exemples comme ça à Centre France, Paul-Alexis Bernard?
Alors nous, on travaille beaucoup sur la valorisation de l'initiative. Et ensuite sur la notion de partage entre les rédactions. En effet, moi j'ai des journalistes qui sont séparés quand même de 500 km, qui ne se croisent jamais. D'ailleurs, on a organisé des rencontres entre journalistes où en fait les confrères étaient là depuis 10 ans, mais ils ne s'étaient jamais vus. Et pourtant, ils bossent pour la même entreprise et finalement une seule et même rédaction. Donc on engage toutes les dynamiques de partage. On a plein d'initiatives, une espèce de réseau social interne qui fait en sorte que les collaborateurs puissent échanger en permanence sur des bonnes recettes, sur des bonnes pratiques. Comme dit Arnaud, quand un truc marche quelque part, il est intéressant que ce soit partagé pour que d'autres journalistes le reprennent. Et encore une fois, ils sont pas en contact naturellement d'habitude pour partager ça. Donc, on organise même des espèces d'ateliers physiques où on les réunit, une petite communauté. On mélange les métiers, ça c'est extrêmement important aussi. On laisse pas les journalistes entre eux, mais on fait en sorte qu'ils puissent échanger avec des gens d'autres métiers. Alors les métiers liés à l'informatique ou au développement évidemment, mais même d'autres métiers tels que la régie et les histoires publicitaires. Il faut que tous les confrères comprennent comment ça marche ou avec le marketing pour que le contenu soit suffisamment bien distribué. Donc on trouve des solutions comme ça.
Mais alors justement, est-ce que c'est bien ça au groupe Centre France? J'ai l'impression que vous avez mis en place une drôle de façon de travailler, d'accompagner la transformation justement du cœur de métier. C'est le fait de trouver des formats finalement ad hoc qui permettent de réunir des personnes. Par exemple, j'ai entendu parler de lagon. Qu'est-ce que c'est qu'un lagon au groupe Centre France?
Le lagon, ça va même au-delà de on recherche une solution entre confrères. On incite les confrères de n'importe quel métier à en fait réfléchir à l'avenir du groupe et d'un média local, même au-delà de son premier métier. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on pourrait inventer qui n'est pas un journal ou de la distribution de l'information. Tous les salariés du groupe ont la possibilité d'avoir une idée et de la porter avec des confrères. Et là, on les accompagne, on les coach un petit peu comme une espèce de micro-start-up qui va démarrer et qui va juste essayer de creuser une idée. Et on les accompagne pour que des idées et des projets émergent. Alors, il y a des trucs très très simples qui sont juste se rendre service entre nous à l'intérieur de l'entreprise. On a par exemple un lagon qui consiste justement à échanger pendant une journée. Je prends le métier d'Arnaud Wery et inversement, moi, il va venir une journée voir comment ça fonctionne chez moi. Bon, c'est pas une invention révolutionnaire. En même temps, dans le groupe et dans les pratiques, ça l'était. Et donc, c'est un lagon qui l'a porté. Et puis, on a des choses, des applications ou des services rendus aux lecteurs qui sont monétisables pour le coup, qui sont des vrais projets un peu plus gros qu'on essaie de faire émerger à travers ces fameux lagons.
Pour prendre un peu de champ aussi sur l'évolution et la transformation de ces groupes de presse, de cette façon d'être présent finalement localement, j'ai l'impression qu'une autre façon d'être un média local, c'est aussi parfois de travailler peut-être avec des start-up. Paul-Alexis Bernard, j'ai l'impression que vous êtes en train de tester avec ce qu'on appelle le bivouac, une nouvelle façon aussi d'être présent dans ce qu'on pourrait appeler l'écosystème numérique local.
Oui, en effet, on essaie de se rapprocher, de s'ouvrir en fait, et d'aller collaborer, participer à des démarches qui semblent assez cohérentes avec ce que nous on veut faire et comment on veut grandir. Donc il y a par exemple à Clermont-Ferrand, en effet, le Bivouac, qui est une structure qui a été montée par plusieurs partenaires, à la fois des collectivités, mais aussi des acteurs privés tels que nous, ou tels que Michelin, ou voilà, des grosses entreprises. Une structure qui accompagne des startups qui sont en voie de maturation et qui fait des appels à projets en disant... venez proposer une start-up, on vous héberge et on va vous aider à grandir. Donc nous, on est partie prenante de ça. On apporte à cette structure autant que ça nous apporte. Moi, ça me fait même personnellement beaucoup de bien parfois de sortir de la rédaction et d'aller voir des start-up qui travaillent sur autre chose que de la distribution, par exemple, de fruits et légumes, comme ça peut être des choses comme plus proches en termes d'information et avec des formats et des applications qui sont liées à de l'info, mais tout un tas de petites entreprises qui sont beaucoup plus agiles, qui trouvent des solutions beaucoup plus vite que nous, qui sont des grosses structures. Donc ça me fait parfois du bien aussi, moi. Et en même temps, moi, je les aide parce que, évidemment, je les ramène parfois à certaines réalités qu'une start-up n'a pas encore véritablement touchées. Et il y a déjà des choses qu'on a faites où on peut leur dire, mais non, ça c'est compliqué, ou est-ce que vous êtes sûr que... Donc on les challenge beaucoup. Donc il y a moi, mais aussi d'autres confrères qui s'impliquent aussi dans ce type de partenariat, et ça nous aide beaucoup.
Et vous avez la sensation que les journalistes aussi se sentent partie prenante de ce mouvement ?
Pour être honnête, c'est pas encore enclenché, voilà, dans l'ensemble de la rédaction. Je vais être tout à fait honnête, c'est pas. Mais ceux qui s'impliquent dans les lagos dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des espèces de petites dynamiques intrapreneuriales à l'intérieur de notre entreprise. Donc, un salarié peut avoir sa petite entreprise potentiellement. Ça les fait grandir. C'est-à-dire que même si leur idée ne va pas au bout, et quand ils retournent dans leur métier, parfois d'ailleurs ils retournent pas exactement dans ce métier-là, mais ils le font eux-mêmes évoluer. Ils ont appris beaucoup de choses.
Il y a une dernière question aussi que l'on peut se poser, c'est celle du poids croissant des réseaux sociaux qui finalement sont aujourd'hui au cœur de la stratégie de diffusion de nombre de médias qui se mettent, eux, à plateformiser, comme on dit, leur contenu, c'est-à-dire en fait à les diffuser sur Facebook, sur YouTube pour les vidéos, sur Twitter pour les petites infos factuelles ou l'agenda. Est-ce que cette dépendance vis-à-vis des grandes plateformes est aussi forte à l'échelle locale qu'elle peut l'être maintenant à l'échelle nationale ?
Bah oui, absolument. Alors, pas en acquisition de trafic, par exemple, c'est devenu une source de trafic extrêmement importante. Et nous, la monétisation, elle se fait d'abord sur nos sites et nos applis. Donc, évidemment, c'est important. Et cette part est croissante. Mais au-delà de ça, on voit que l'information vit, s'anime essentiellement sur ces plateformes. On est encore loin du truc où on va aller, casser nos sites internet, arrêter d'imprimer un journal et tout va se passer sur Facebook. Enfin, on en est encore très très loin. Mais en revanche, on construit de l'information avec les réseaux sociaux, ça c'est évident et ça commence déjà à se développer de manière assez puissante.
Arnaud Wery, à l'avenir.net.
Je rejoins vraiment totalement Paul-Alexis, c'est impossible de se passer des réseaux sociaux. Cette dépendance parfois est un petit peu malsaine, parfois dérangeante, mais oui, on va comment raconter, comment mettre une histoire sur les réseaux sociaux, quel angle prendre, je trouve qu'il faut vraiment aller jusque-là, se dire... comment la vendre, entre guillemets, sur Facebook.
Et alors vous qui, avec votre blog, observez régulièrement l'évolution de l'information et de l'information locale, si on devait finir par une ou des sources d'inspiration sur les nouvelles façons de proposer des projets éditoriaux locaux, qu'est-ce que vous nous mentionneriez ?
Moi, j'adore discuter avec Paul-Alexis. Je trouve que ce qu'il est en train d'entreprendre est assez fabuleux. Très inspirant.
Alors, partie de ping-pong, Paul-Alexis Bernard, source d'inspiration. J'adore en matière d'information locale.
C'est ce que fait l'avenir. donc, l'exemple se situe à l'avenir et en Belgique. Non, c'est compliqué de trouver un truc et un média local qui serait vraiment un exemple pour le monde entier. Enfin, ce serait trop simple d'ailleurs, sinon on ferait tous la même chose et ce que fait ce média. Si je reviens au début de la conversation et notamment sur l'aspect local et voire même hyper local, on discutait il y a pas longtemps avec Arnaud d'une logique d'information extrêmement locale qui est un vieux truc en fait qui existe depuis 7-8 ans maintenant, je pense d'ailleurs, ou au moins 5-6 ans, qui est les logiques de micro-info, le nid de poule devant chez moi, ou l'arrêt de bus qui a été cassé, ou là, si on mettait sur cette place-là des fleurs, ça serait bien. Est-ce que c'est vraiment un boulot de journaliste? Peut-être pas. En revanche, c'est un truc qui est cohérent avec un média local et hyper local, qui est proche des gens et en tout cas qui est proche de nos lecteurs. Donc ce type de mécanique de contribution d'information, vraiment toutes petites, mais qui ont du sens quand on les met en scène. Je pense que là, il y a 2-3 médias qui s'aventurent sur ce type de mécanique qui sont probablement exemplaires. Et il faut qu'on commence à s'intéresser à ce type de mécanique.
Trions, vérifions, inventons le futur de l'information.
Paul-Alexis Bernard, Arnaud Wery, je vous remercie d'être venu nous faire part de vos aventures éditoriales locales et bon retour dans vos contrées respectives. Je rappelle aux auditeurs que toutes les références sont à retrouver sur atelier.rfi.fr. La semaine prochaine, nous parlerons de tout à fait autre chose puisqu'on s'intéressera à l'intelligence artificielle dans les médias. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, plus qu'une émission, un projet copiloté par Manon Mella, Mathias Virili, Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
L'Atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
RFI.
Écho d'ici, écho